Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, saint Paul nous a appris dans l'épître de la messe que la vie chrétienne est un dur combat. Il faut déployer toutes nos forces pour obtenir la victoire. Aujourd'hui, il nous raconte sa vie d'apôtre, avec les difficultés rencontrées dans l'exercice de l'apostolat, les grâces exceptionnelles dont il a bénéficié, sa faiblesse personnelle manifestant la force de Dieu. Cette vie remarquable nous est donnée par l'Église afin que nous nous en inspirions et en tirions des conséquences pour nos résolutions de carême. La première chose que cette vie nous enseigne, c'est la fidélité à notre devoir d'État, coûte que coûte. Le devoir d'État découle du décalogue qui nous impose les devoirs naturels les plus fondamentaux envers Dieu, nous-mêmes et le prochain. Ces devoirs d'État sont nombreux, puisque les différents états de vie varient en fonction du temps pour une même personne. On a d'abord des devoirs d'état d'enfant, dépendant de l'autorité de nos parents, ensuite des devoirs d'état d'élève, de chrétien, et plus tard de parents, des devoirs professionnels. Saint Paul, lui, a été choisi par notre Seigneur pour devenir apôtre. Le Seigneur dit à Ananie, « Va, car Saul est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Dans la première partie de l'épître, saint Paul énumère tout ce qu'il a souffert pour le nom de Jésus. La liste en est impressionnante. Un dixième de ses mots aurait refroidi et arrêté dans son élan missionnaire une âme pusillanime. Rien n'a arrêté saint Paul, car mu par l'amour de notre Seigneur, il était prêt à donner sa vie pour lui, pour le faire connaître et aimer des âmes. Nous avons tous une vocation personnelle, notre place à tenir dans le corps mystique du Christ qu'est l'Église. Il s'ensuit un ensemble de devoirs et de responsabilités dont le Seigneur nous demandera compte au jour du jugement. Pouvons-nous dire que nous y avons mis toutes nos forces, fait preuve d'un courage semblable à l'apôtre? Une des missions les plus communes que Dieu donne aux hommes est celle de parents, qui comprend aussi celle des éducateurs de la jeunesse. La famille a été constituée par Dieu pour la procréation et l'éducation des enfants. Ce droit inaliénable, par quelque puissance que ce soit, comporte des devoirs exprimés dans le droit canon, qui dit ceci: les parents ont la grave obligation de veiller, selon tout leur pouvoir, à l'éducation tant religieuse que morale, que physique et civique de leurs enfants. Ils doivent aussi pourvoir aux besoins temporels. L'éducation chrétienne commence par l'exemple dans la famille. Si une atmosphère chrétienne de vertus pratiquées au quotidien y règne, l'enfant s'en imprégnera et sa vie chrétienne se développera harmonieusement. Les pères de famille ont ici un rôle primordial à jouer, selon ce que dit Pie XII en 1942. Toute attitude du mari à l'égard de l'épouse ne doit jamais manquer de ce caractère de cordialité et d'empressement naturel, noble et digne, qui convient à un homme intègre et craignant Dieu. À un homme dont l'intelligence sait mesurer la valeur inestimable pour l'éducation d'un accord mutuel vertueux et délicat entre les époux, la bonne entente conjugale. est nécessaire à la bonne éducation des enfants. Le même Pie XII recommandait aux pères de famille de garder leur foyer des influences malsaines. Vous avez le devoir, disait-il, de préserver vos enfants et vous-même de tout ce qui pourrait nuire à votre vie honnête et chrétienne, comme à la leur, de tout ce qui pourrait ternir la pureté, l'éclat et la fraîcheur de votre âme et la leur. Il signalait les lectures, les spectacles et les fréquentations. À l'heure d'Internet, les paroles de Pie XII sont encore plus d'actualité. Chers pères de famille, mettez-vous toutes vos forces, tout votre courage pour préserver vos enfants et vous-même des dangers d'Internet. Vous me direz, on est quasi obligé de l'utiliser à notre époque. Certes. Mais puisque c'est un outil qui peut être mortel pour vos âmes et celles de vos enfants, que faites-vous pour apprendre à se servir d'un outil si dangereux? Pour conduire une voiture, il faut un certain âge, une formation, un permis, un code de la route. De même pour la chasse, il faut un permis et il faut un code pour pouvoir chasser. Et pour Internet, il n'y aurait rien. Vous savez que toute personne, que ce soit des parents, des professeurs, des chefs d'entreprise, des autorités religieuses ou civiles, sont constituées en autorité par Dieu pour exercer cette autorité en conformité à la volonté de Dieu. Et cela a des conséquences importantes, des devoirs important qui nous rend obligés de les accomplir. Prenons simplement les autorités constituées que sont les parents et les enseignants. Puisqu'ils doivent exercer cette autorité au nom de Dieu, ils doivent se maintenir en dépendance de Dieu parfaite et totale. Les préceptes et les défenses dont ils usent à l'égard des enfants ou des jeunes dont ils ont la charge sont des promulgations du décalogue divin extérieur, auxquelles ils doivent se soumettre les premiers. Prenons un petit exemple. Un parent ou un éducateur emmène des enfants à la patinoire, par exemple. Le prix d'entrée est en fonction de l'âge des enfants. Si le parent ou l'éducateur trompe la caissière sur l'âge des enfants, eh bien, il va commettre deux fautes envers les commandements de Dieu, le mensonge et le vol. Les enfants auront retenu la leçon. Comment pourra-t-il exiger d'eux qu'ils soient des enfants véridiques et honnêtes par la suite? Le sens du devoir est faussé, car les enfants ont compris que le devoir peut être modifié en fonction des intérêts personnels. Pour bien user de l'autorité que Dieu vous a donnée, il faut éduquer la conscience des inférieurs, leur faire comprendre que le devoir est une très grande chose. C'est la volonté de Dieu manifestée par la loi morale et promulguée par l'autorité. Exercer l'autorité demande aussi une grande abnégation de soi. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu étant le seul fondement de nos ordres, cela exclut l'ambition, l'amour-propre, la paresse, la peur de l'effort, l'appétit du bien-être. Si ces défauts motivent nos ordres, alors nous ne sommes plus dignes de l'autorité que Dieu nous a déléguée. La conséquence est des plus graves. On ne mérite plus le respect ni la soumission de l'enfant ou du jeune dont on s'occupe. Beaucoup de parents, d'éducateurs, de personnes constituées en autorité se plaignent que l'autorité n'est plus respectée. Le mal ne vient pas d'abord des inférieurs, mais de l'autorité. Cette autorité s'est elle-même ruinée en n'observant pas le 8e commandement, qui nous défend la médisance, le jugement téméraire et nous ordonne d'interpréter en bien autant que possible les actions du prochain. La critique des autorités extérieures à la famille, école, chapelle, autorité civile, ruine l'autorité de la famille elle-même. En effet, c'est cultiver dans l'âme de l'enfant l'indocilité envers ses autorités, l'irrespect, l'effronterie, la révolte, à différents degrés bien sûr. Et les conséquences, c'est la famille qui en subira, qui les subira. On pourrait aussi évoquer les devoirs d'État professionnel, le travail bien fait, le respect du décalogue dans le cadre du travail. Un petit exemple qui date déjà, mais maintenant il y en aurait des quantités à donner. Dans une grande entreprise, les secrétaires utilisaient régulièrement le téléphone de l'entreprise pour leurs besoins personnels pendant le temps de travail. C'est du vol. Nous n'avons fait qu'effleurer quelques devoirs de l'état d'un chrétien ordinaire. Combien cela demande de vertu ? Où trouver la force de les pratiquer ? Parce qu'il y a un entraînement vers l'infraction envers les commandements de Dieu. Donc, qu'est-ce qui nous donnera la force de donner à la face du monde un témoignage de vie chrétienne ? Témoignage qui attire et élève les âmes vers notre Seigneur. Dieu ne commande jamais quelque chose sans nous donner les moyens de l'accomplir. C'est pourquoi nous bénéficions de la part de Dieu des grâces nécessaires à nos devoirs d'État. C'est le deuxième point que nous allons aborder. Ces grâces d'État, nous devons les demander dans la prière. Elles ne tombent pas automatiquement. Il faut y consacrer du temps, dans un profond recueillement. Pas un devoir dont on s'acquitte en bâclant. Plus les devoirs sont importants, plus grandes seront les grâces qui y sont attachées. Et plus confiante et humble doit être la prière qui va les demander. Voyez saint Paul, de persécuteur des chrétiens, notre Seigneur veut en faire un apôtre qui fera connaître et aimer son nom parmi les juifs et les païens. Quelle mission ! Que fait saint Paul ? Une fois converti, il reste peu de temps à Damas, où il prêche que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ressuscité. Il donne son témoignage. Mais il comprend que pour accomplir sa mission d'apôtre, son témoignage personnel ne suffit pas. Il doit pouvoir enseigner tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption. C'est pourquoi il part 3 ans en Arabie. Il passe tout ce temps dans une retraite profonde, seul en présence de Dieu. À qui n'a pas dû manquer d'exposer son indigence, sa misère profonde. C'est à cette occasion qu'il va recevoir les grâces exceptionnelles dont Dieu l'a gratifié, ce qu'il nous raconte dans la deuxième partie de l'Épître. Quand il revient à Damas, 3 ans plus tard, il est armé pour la controverse. Il enseigne au docteur. Il a reçu les grâces nécessaires et il les met en pratique. Nos missions sont bien plus modestes que celles de saint Paul. Elles ne requièrent pas des grâces spéciales, exceptionnelles. Cependant, si nous n'avons pas été à la hauteur de nos devoirs d'État respectifs, c'est que la grâce a manqué par notre faute de quelque manière. Alors, profitons de ce temps de carême qui approche pour mener une vie de prière plus profonde, en consacrant, par exemple, un quart d'heure pour l'oraison quotidienne, en venant demander des lumières au tabernacle. Qu'est-ce qu'un quart d'heure passé en oraison ou un quart d'heure, une demi-heure passé à aller visiter Jésus dans une église ? C'est peu de temps par rapport à tout le temps qu'on utilise sur Internet. Dieu veut que nous accomplissions plus parfaitement notre devoir d'État, et il nous en a mérité toutes les grâces nécessaires. Alors mettons en pratique ce qu'il nous a enseigné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Pour éviter que la réussite dans nos devoirs d'État ne nous enorgueillisse, Dieu, comme un Père sage et prévoyant, accompagne nos actions de la croix. Cette croix prend diverses formes selon les personnes et situations. Si notre Seigneur a fait monter Saint Paul jusqu'au paradis pour l'instruire, il va le protéger de l'orgueil. Écoutons ce qu'il nous dit. De peur que la grandeur de ses révélations ne m'enorgueillit, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. C'est pourquoi, à trois reprises, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car la force de Dieu se montre tout entière dans la faiblesse de l'homme. » Les pères de l'Église et les exégètes n'ont jamais réussi à éclaircir ce qu'était ce mal de saint Paul. Il y a beaucoup d'hypothèses. Toujours est-il, ce mal pénible contrariait souvent l'exercice de son ministère et le déconsidérait aux yeux des gens. Cette infirmité n'a pas empêché saint Paul d'accomplir des merveilles dans l'évangélisation, en s'appuyant uniquement sur la grâce de Dieu. Saint Paul, une fois converti, est décidé à se donner tout entier à Dieu jusqu'à la mort. Avec un tel courage, une telle détermination, son apostolat devait être une réussite. Comme lui, quand nous nous donnons à nos devoirs d'État à fond, en priant, en demandant les grâces, par exemple, fonder une famille, diriger une entreprise, organiser des œuvres sociales ou paroissiales, nous espérons la prospérité. Cette prospérité dans nos œuvres est un sourire de la Providence. Il faut en rendre grâce à Dieu. Mais attention, la prospérité permanente est un piège. Et souvent, le bon Dieu ne le permet pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a des attraits, dit saint François de Sales, qui charment notre sensibilité, endorment notre raison. Elle fait que nous nous attachons imperceptiblement au don et oublions le donateur. Rappelons-nous que l'Évangile ne met la béatitude que dans la pauvreté, les mépris, les douleurs et les larmes. C'est pour éviter de grands maux nuisibles à notre âme que Dieu permet l'adversité. Cette adversité peut prendre la forme d'une infirmité, d'une maladie chronique, qui, sans être grave, perturbe notre devoir d'État. Quelle attitude avoir devant la croix qui vient troubler ce devoir d'État ? Comme on est bon chrétien, on ne va pas se révolter. On peut d'abord se résigner, c'est bien. Se résigner, c'est se dire « cette croix m'embête ». De toute façon, je n'ai pas d'autre moyen que de l'offrir à Dieu. Ce n'est pas parfait. On peut l'accepter, c'est mieux. L'accepter, c'est se dire « on m'envoie cette croix, prenons-la du bon côté et offrons-la à Dieu ». Mais le mieux, c'est de faire un acte d'amour. C'est de se dire « Dieu a la bonté de m'envoyer cette croix pour que je la lui offre de tout mon cœur pour sa gloire. » C'est ainsi que nous devons réagir dans tous nos devoirs d'État, se glorifier volontiers de nos faiblesses, afin que la force du Christ habite en nous. Alors demandons cette grâce à la Reine des Apôtres, à notre Mère, la Très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.